France Inter.
L'invité au carré, aujourd'hui...
Mario Montaigne, autrice de bande dessinée.
France Inter. La Terre au carré. Mathieu Vidard.
Le saint patron du 9e art, c'est comme cela qu'en 1988, le célèbre auteur américain de comics Art Spiegelman désignait son lointain prédécesseur, le Suisse Rodolphe Töpffer. Né en 1799 à Genève, Töpffer est considéré par les historiens de l'art comme le créateur historique de la bande dessinée. Directeur d'une pension, Töpffer réalise des carnets de voyage, intégrant un grand nombre de dessins à l'occasion d'excursions dans les Alpes avec ses élèves. En 1827, il dessine ainsi les aventure d'un personnage haut en couleur, Monsieur Vieux-Bois. 200 dessins enlevés qui semblent tracés d'un seul coup de crayon sur une seule bande, divisés le plus souvent en deux ou trois cases par page et accompagnés de textes courts et tracés à la main, indissociables des dessins. Töpffer désigne lui-même son travail comme de la littérature en estampes, des histoires avec des successions de scènes représentées graphiquement. Et pour la première fois, l'ensemble est réuni dès le manuscrit dans un album. Le grand écrivain allemand Goethe, âgé de plus de 80 ans à l'époque, découvre ses dessins qu'il trouve très drôles, étincelants de verve et d'esprit. Convaincu par l'enthousiasme du vieil écrivain, Töpffer consent à publier un premier album, Monsieur Jabot, en 1833, mais sans faire apparaître son nom sur la couverture, uniquement ses initiales RT en bas de chaque page. Cet album peut ainsi être considéré comme la première bande dessinée de l'histoire. Son succès est immédiat. 5 autres albums suivront en moins de 13 ans. En 1974, le dessinateur Georges Wolinski, héritier revendiqué de Töpffer, lui rendra hommage en écrivant « Ce qui est extraordinaire avec Töpffer, c'est qu'immédiatement ce fut parfait. Tout ce que ses successeurs ont trouvé, c'est de faire parler les personnages avec des ballons et quelques autres astuces techniques piquées au cinématographe. » Bonjour Mario Montaigne.
Bonjour, grosse pression.
C'est ça. Est-ce que vous vous considérez un peu comme une enfant de Rodolphe Töpffer?
Évidemment. J'espère que Goethe aurait apprécié mon travail.
Ah oui, ça aurait été chic. Hein.
Mais oui, c'est l'art séquentiel, oui. C'est, ouais. En quelque sorte.
Ouais. Vous avez pesqué, c'est quand même pas mal non plus dans le genre.
Oui, voilà, ça y est, j'ai tué le game.
Dessinatrice spécialisée dans la vulgarisation scientifique trash, voilà comment vous présentez le journal Le Temps l'année dernière. Le dessin, la BD, c'est votre métier avec un univers imprégné de science et de pop culture. C'est l'occasion de revenir sur votre parcours, du professeur Moustache au dinosaure en passant par Thomas Pesquet. Une histoire, Marion Montaigne, qui commence le 8 avril 1980. Et voilà ce qu'on pouvait entendre ce jour-là au journal télévisé d'Antenne 2.
Madame, monsieur, bonsoir. Le président Carter, qui joue sa place à la tête du pays, a choisi de frapper un grand coup en décidant la nuit dernière de rompre toute relation diplomatique avec l'Iran, Paul Nahon.
Reste à savoir maintenant quelle sera la prochaine décision, la prochaine étape que franchira le président américain dans cette affaire des otages qui constitue désormais véritablement une bombe à retardement, non seulement pour les Américains, mais aussi pour l'Europe tout entière.
Il y avait du monde ce week-end en Bretagne, ce qui ne veut pas dire que la saison touristique sera bonne.
Ce pèlerinage était donc autant de la curiosité que de la solidarité avec les sinistrés de Trégastel et de Ploumanac, rebaptisés au goudron, Trégasoil et Ploumazout. Et 1980 sera une année catastrophe si le décor n'est pas à nouveau breton, au moins en juillet.
Excellente soirée sur Antenne.
Voilà pour le petit journal de votre naissance, Marion Montaigne, qui se termine avec le groupe Téléphone. Est-ce que vous savez pourquoi?
Pourquoi en 80? Ben non, je venais de naître, j'étais pas au courant.
Voilà, alors vous êtes né le 8 avril et trois jours avant, le 5 avril, Téléphone donnait son premier concert devant 5000 personnes au Stade de l'Est à Saint-Denis de la Réunion.
Ah bah donc, voilà, c'était là. Ma mère l'a peut-être provoqué, l'accouchement en y allant. Non, je pense pas.
Elle n'est pas allée au concert en tout cas?
Connaissant ma mère, pas trop. Non,
c'était pas sa tasse de thé,
non,
Téléphone.
Non.
Qu'est-ce que faisait votre famille d'ailleurs à La Réunion donc en ces années 80 là ?
Alors en fait, nous on déménageait régulièrement. Souvent on me demande, mais ton père est militaire ? Et non, en fait il travaillait à EDF-GDF. Et je pense que comme il a passé toute sa, quasi sa vie à Dunkerque, il a dû cocher « oui, je veux bien bouger ». Ouais. Donc on était mutés tous les 4 ans, 4 ans et demi. Et moi je suis née à La Réunion lors d'une mission là-bas. Donc c'est mon petit côté exotique sur mon CV. Et après on est retourné en métropole.
Et votre maman faisait quoi elle ?
Alors elle est vite devenue mère au foyer parce que mes frères et sœurs sont triplés. Donc c'était du boulot. Et après elle m'a eu. Donc encore plus de boulot. Et à l'adolescence c'était infernal.
Ouais, les triplés donc avant vous ? Vous avez combien d'écart avec vos frères et sœurs ?
3 ans.
3 ans.
Oui, souvent les gens sont un peu fascinés.
Les triplés, c'est une BD d'ailleurs, humoristique.
Oui, ma mère lisait ça. Mais là, moi, dans ma famille, c'est 2 filles et 1 garçon. Dans la BD, c'est 2 garçons et 1 fille, et beaucoup moins sage.
Nicole Lambert, publié dans le Figaro, hein, Madame Figaro.
Oui, un peu plus... Ouais. UP que chez nous.
C'est ça. Vous avez vécu combien de temps du coup à la Réunion alors
Moi, je suis repartie vers 4 ans, 4 ans et demi.
Et vous avez beaucoup de souvenirs de cette période ou pas ?
Non, aucune. Je ne vais pas vous mentir. C'est des photos. Non, mais on m'a raconté un peu.
Vous avez aimé changer, déménager comme ça ? Quand on est enfant, on n'aime pas ça du tout en principe.
Non. C'était. Au bout de 4 ans, on se retrouvait avec mes sœurs dans le grenier et on disait bon, ça va être où cette fois ? Papa va nous annoncer. Et. Tout d'un coup, un soir, il nous disait « bon, on déménage le temps et il nous révélait le lieu ». Alors des fois, c'était en plein milieu de l'année, ça c'était le plus dur. On a déjà fait des Noëls au milieu des cartons nouvelle école. C'était pas facile à l'échelle d'un enfant, mais après, on s'adaptait.
Qu'est-ce qui est difficile en fait ? C'est qu'on perd ses copains et ses copines très vite
On perd ses amis, on perd un peu ses repères, la maison qu'on aimait bien. Moi, j'aimais pas perdre mes instincts qui me rassuraient. Mais le bon côté du truc, c'est que en fait, je suis pas très chauvine. Je sais pas ce que c'est que soutenir une équipe de foot. Je m'en de Metz ou Brenne,
vous n'avez pas de territoire attitré ?
Non, puisque il y en a eu plusieurs. Je sais pas trop ce que c'est. Je sais pas trop ce que c'est que retourner chez moi et retrouver ma chambre d'enfance. Ça me fascine. Les gens qui ont encore leur chambre. De quand ils étaient petits ou la même maison. Et par contre, je pense que ça a un peu joué dans mon métier parce que j'écrivais beaucoup, beaucoup de lettres à mes copines en faisant des dessins aussi dessus. Et ça, je l'ai fait assez tard, jusqu'à 20 ans, etc.
Ouais. C'était quoi le dessin du coup ? C'était comme un refuge aussi, quelque chose qui vous ancrait ou...
Oh, c'était un peu aussi ma manière d'être originale dans la famille.
Ouais.
C'était un défouloir, un petit univers. Moi, je dessinais des chevaux, des dinosaures.
Ouais. Mais c'est une façon de vous démarquer alors ?
Je pense, quand vous êtes le titre l'artiste de la famille, vous le gardez, quoi. C'est un chouette titre.
Il faut revendiquer son statut en permanence.
Il faut le garder. C'est un truc, moi, ça, c'est comme aimer le tennis ou le foot. Moi, j'aimais bien le dessin.
Mais vous avez commencé tôt à dessiner ?
Je crois que, comme beaucoup d'enfants, je dessinais. Après, j'ai continué. J'ai dû avoir une pause. Souvent, au collège, on arrête un peu parce qu'on a peur du jugement des autres. Et après, j'ai repris au lycée quand j'ai découvert les mangas, etc. Là, je me suis dit, je veux dessiner.
Et est-ce que votre talent a été repéré tôt ou pas ?
Non. La famille, ici, ils aimaient bien parce que je faisais des petits dessins... qui racontait un peu l'histoire de la famille. Je me moquais un peu de mon père qui s'énerve très vite en bricolant. Donc, je l'ai dessiné en train de couper le chien en deux avec la tronçonneuse. Sur du trash. Ouais, non, beaucoup de sang. Ça a été pire au lycée parce que j'étais dans... Je faisais aussi des BD sur mon frère qui joue au basket. Je voulais faire rire la famille, je pense. C'était mon truc.
Et ça fonctionnait bien ?
Ça fonctionnait bien, puisque j'ai continué. Voilà le résultat. Faut pas... auprès de la famille, il y avait une liberté, on m'a toujours laissé dessiner, même un peu trash, ça faisait marrer. Mm-hmm.
Et la science, alors c'est venu comment dans ce parcours-là ?
Je pense que c'est un peu en parallèle, parce que moi j'aimais bien quand même traîner dehors dans le jardin, faire des élevages de bestioles dans tous les sens.
Quelles bestioles ?
Tout. Je crois que j'ai eu des souris, j'ai eu des rats, j'ai eu des oiseaux.
Vous avez élevé des rats ?
Non, alors j'en ai eu qu'un, mais des souris, j'en ai eu 23. J'ai eu des phasmes.
Les phasmes, c'est ces insectes qui ressemblent à des bouts de bois, là.
Hein. Qui sont devenus très gros. Je me suis fait gronder par la gardienne parce qu'elle ils se sont échappés. J'ai eu des tortues. Jusqu'à récemment, j'avais des menthes religieuses.
Ah oui, donc grosse passion élevage, en fait.
Ouais, j'aime bien regarder les animaux évoluer.
Et vous aviez quoi, des vivariums partout dans la chambre?
Ouais, j'avais des vivariums. J'avais des lubies. J'ai eu une lubie à un moment. J'avais envie de faire une fourmilière, mais je me suis dit que ce serait pas cool pour mon mari. Des fois, j'ai envie de reprendre l'aquariophilie, non, mais...
Ah, toujours? Donc, vous avez
je résiste,
Donc, c'est quoi? C'est l'observation? Vous êtes fascinée par quoi, en fait?
Je sais pas. J'adore regarder les animaux faire leur vie en me demandant comment ils vivent, comment ils nous perçoivent, qu'ils sont stressés, est-ce qu'ils me voient comme un géant.
Et vous avez la réponse ou pas?
Non, des fois je vais à des conférences d'éthologie et c'est la question que se posent tous les éthologues.
Donc la biologie, c'est votre truc, quoi?
Ouais, j'adorais ça. Et quand on a commencé à en faire au collège, moi, ça a été la salle de classe que je préférais. Je trouvais que c'était la discipline qui était le plus proche de la vie de tous les jours, quoi, qui expliquait les choses concrètes. Et en plus, on allait dehors, on avait des vivariums dans la salle, donc c'était cool, on avait... Il y avait un décor, quoi.
Ouais, vous écrivez, Marion Montaigne, j'ai été une vraie faillotte en biologie.
Ouais, je trafiquais. Alors, j'ai changé des poissons d'aquarium avec ma prof le samedi matin. Donc, elle m'avait à la bonne. On a changé des goupilles. Ouais, bah ouais.
Et ça, par rapport aux camarades de classe, c'est toujours un peu mal
vu, c'était discret. C'était discret, c'était avant les cours. Ouais, je lui ai mis un Tupperware.
Vous assumiez pas totalement?
Ah ben non, on fait ça discretos. un vrai faillot fait ça bien.
Ah ouais, donc c'était en cachette quand même. Voilà. Ouais. Mais donc, vous auriez pu faire de la biologie en réalité?
Ouais, j'aurais bien aimé. Ça a été un peu plus chaotique. Je pense que je pensais. Il n'y avait pas de scientifique dans ma famille. Alors si, une de mes sœurs est ingénieure, mais pas en biologie. Et je pensais qu'il fallait, pour être scientifique, il ne fallait pas être juste bon. Je pensais qu'il fallait être un génie, comme le premier de la classe qui a 18 sur 20 sans faire d'effort, qui fait « Oh bah, j'ai pas révisé, j'ai encore 19, c'est incroyable. »
Donc je croyais que c'était ça. Vous vous êtes auto-censuré, en fait,
Je pensais que j'étais trop moyenne, trop nulle, et que j'y arriverais pas. Qu'il fallait vraiment être une tronche.
Donc vous êtes bien rattrapé, finalement, avec vos...
Même presque mieux, puisque je peux papillonner d'un sujet à l'autre. Je peux un peu passer de côté les sujets qui ne m'intéressent pas trop.
C'est ça, choisir vos labos, vos scientifiques, donc ça c'est bien.
C'est encore mieux.
Donc vous aviez toujours cette obsession de comprendre les choses, les phénomènes.
J'aime bien. J'aime bien réussir à comprendre comme une enquête un fait, même... Je crois qu'une fois, j'étais même juste contente de comprendre la division de l'œuf d'une grenouille, de fécondée d'une grenouille. Et à la fin de l'après-midi, j'avais compris comment les cellules s'organisaient entre le haut et le bas. Et je me suis dit, c'est quand même un peu bizarre, mais c'était une vraie satisfaction intellectuelle. C'est que j'avais trouvé, à force de documentation, comme une enquête, jusqu'à ce que je comprenne. Donc c'est... Il y a aussi un petit côté rat de bibliothèque j'aime bien essayer de trouver la solution et essayer de comprendre par moi-même.
Et vous étiez dans une école catholique, c'est ça? Vous
avez...
là, vous avez essayé de comprendre le phénomène aussi?
Alors, dans tous les déménagements, des fois, bonne surprise ou mauvaise surprise, collège catho. Et il y avait à la fois cours de religion, 2 heures de plus par semaine. Et après, qui pouvait se succéder avec les cours de biologie ou de sciences. Et moi, ça me faisait une dissonance cognitive absurde, quoi. J'étais OK pour qu'on soit tous gentils en religion. OK, je trouvais ça bien d'être quelqu'un de bien. Mais par contre, je ne comprenais pas qu'on puisse croire que la Terre soit faite en 6 jours, alors que le prof suivant explique la géologie qui était beaucoup plus cohérente.
Ouais.
J'ai choisi la science parce que je trouvais que c'était ce qui est le plus cohérent, quoi. Enfin, le plus méthodique.
Vous écrivez, j'étais d'accord pour que Jésus existe, mais alors il fallait qu'il m'apparaisse. Je voulais des preuves.
Ouais. Au bout d'un moment, j'ai fait, allez, j'arrête de croire parce que moi, j'étais sympa et j'ai toujours pas de petite amie. Alors, j'abandonne Jésus. Le deal n'est pas en place là.
Ouais.
Non, c'est une sorte de... j'aimais bien le contrat social de dire si on se comporte bien, tout va bien se passer. Mais en vérité, la réalité est beaucoup plus complexe et beaucoup plus intéressante aussi quand vous commencez à regarder la psychologie, la biologie, etc. C'est pour ça que je pense que je préférais la complexité du vivant à des trucs tout faits, tout écrits, un peu des mythes, en fait, des mythologies.
Marion Montaigne, à l'âge de 13 ans, se passe un événement majeur dans votre vie et ça se passe au cinéma.
Cette résine fossilisée, que nous appelons l'ambre, a attendu des millions d'années avec ce moustique en elle. Jusqu'à ce que viennent les savants du Jurassic Park. Grâce à des techniques sophistiquées, ils extraient le sang du moustique conservé dans l'ambre. Et bingo, voilà ADN dino. Et maintenant, nous pouvons créer un bébé dinosaure.
Voilà, 1993, premier épisode de Jurassic Park, Steven Spielberg. Vous êtes collégienne à Montigny-lès-Metz, donc en Moselle à ce moment-là. Et là, c'est le choc, mais vous tombez en amour quoi, pour ce film.
Attendez, on était à l'année 93, c'était la première fois qu'on avait des effets spéciaux en 3D aussi haut niveau. Et je crois que j'y suis allée 6 fois, j'ai emmené mon père le voir.
La même année
fois. Ouais, à la suite, parce que c'était la première fois où je me disais, bah, ah oui, ça sert à ça d'aller au cinéma. C'est vraiment, on est dans le truc. Mais je respirais plus, je crois que j'avais mais c'était vraiment un choc artistique, culturel, enfin ouais, ça a été un gros tournant. Ouais.
Oui, donc vous êtes vraiment obsessionnel en fait, quand vous aimez quelque chose, vous aimez très très fort.
Ah bah ça je suis fidèle, je défendrai toujours ce film, et en plus il n'a pas vieilli, dès qu'il passe à la télé, je ne peux pas m'empêcher de regarder la suite alors que je le connais par cœur.
C'est vrai.
Je ne peux pas, ouais. Je dois regarder la suite.
Qu'est-ce que vous aimez en fait dans Jurassic Park? C'est quoi qui fait vibrer vos cordes?
Ah bah déjà, il y a un peu la nostalgie, parce que bah c'est un film qui a marqué mon enfant, je pense que ça me rappelle ça. Mais je sais pas, je pense que c'était le choc de se dire, en effet, il y a eu un monde dans le passé qu'on n'a pas côtoyé. Et ça, c'est un peu fascinant, c'est génial comme idée de se dire, et si on avait le même timeline et qu'on était ensemble, ouais. Qu'est-ce que ça donnerait? Et en plus, c'est pas totalement, pas impossible, mais c'est un truc cérébral, pourquoi pas, puisqu'ils ont vraiment existé, c'est pas...
Ouais.
Et donc ça donne le tournis, ça vous rappelle l'échelle du temps, ça, c'est comme quand vous regardez l'espace, l'échelle des galaxies, tout, ça vous fait tourner la tête.
Mathieu Vidard, La Terre au carré.
Je lis pas énormément de bandes dessinées, je regarde les dessins. Mais la bande dessinée, ce qu'il y a de spécifique, c'est que si les dessins vous plaisent pas, vous lisez pas le texte.
Bonsoir. Ce soir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, vous allez être de petits gâtés, car le dessinateur de ce soir est une dessinatrice. Oui, c'est Claire Bretéché. J'ai bien dit le nom, oui.
Très bien.
Claire Bretéché, dessinatrice, une des rares dessinatrices de bande dessinée, et peut-être la seule, qui sait. Vous êtes la seule, non?
Oui, je crois. On me dit souvent que je suis la première dessinatrice femme. Ça m'étonne un peu, mais... Il y a dû y en avoir, mais qui travaillaient avec leur mari, donc on parlait que du mari, évidemment. Sûrement.
Extrait d'un documentaire de 2009 de France 5 consacré à Claire Bretéché, Marion Montaigne. On vous compare souvent à Rézère ou à Bretéché.
Oui, c'est vrai.
Vous êtes d'accord avec cette filiation?
Alors, ouais, un peu dans le style, le dessin, mais c'est drôle parce que c'est ce qu'elle dit. Je regardais les dessins de Claire Bretéché, mais je comprenais pas toujours. Et c'était dans un meuble où j'avais pas trop le droit. C'était aux adultes, donc je l'ai piqué un peu et Rézère aussi.
D'autant plus intéressant.
Voilà, d'autant plus fascinant. Et Rézère, pareil, je regardais le dessin un peu cru et je pense que c'est un peu resté.
Le peu de femmes dessinatrices, c'est plus un sujet aujourd'hui dans la bande dessinée.
Ah non, j'ai l'impression, on a plein, il y a beaucoup plus de... On a fait une sorte de sondage et on s'est rendu compte qu'on était kiff-kiff, enfin
ouais.
Moi, plus. Ouais.
Bonne parité dans la BD.
Mais en plus, en fait, on comptait mal, souvent elles étaient un peu, comme elle disait, c'était les coloristes, etc. Et elles n'étaient pas considérées. Mais maintenant, ça a bien changé. En plus, dans les écoles d'art, il y a beaucoup de filles, enfin...
Ouais.
On va tout manger, ouais.
Ah, c'est bien. Lectrice de bande dessinée ou pas, d'ailleurs?
Alors, pas assez, je trouve, parce que ça me rappelle le travail. Le problème, c'est que je lis plutôt des romans ou des articles, parce que sinon, ça me rappelle le boulot. Je peux pas m'empêcher de regarder comment c'est dessiné, scénarisé, et comme en fait, en plus, c'est des collègues, je fais « Oh, il aurait dû faire comme ça, comme ça ». Donc, je lis un peu, mais pas pour la détente.
Et dans quel dessinateur de BD, quand même, vous reconnaissez vraiment? Est-ce qu'il y a une figure qui émerge dans votre panthéon personnel?
Bah en fait, c'est plutôt Dr. Slump d'Akira Toriyama, parce qu'en fait, il y a une absurdité comme ça, je pense, qui m'a vraiment marqué à 14 ans. C'est en fait, c'est une petite fille, un petit robot fille, mais qui fait vraiment des trucs absurdes et qui rencontrent des situations absurdes. Et ce côté un peu...
Créé par ce docteur.
Ouais, créé par le docteur Slump. Et moi, je me souviens, à 14 ans, j'étais morte de rire juste des scènes, des dessins, ou même leur tête. La manière dont je fais les bouches, ça me rappelle un peu docteur Slump.
Donc le manga ?
Eh oui, le manga, il y a des mangas bien. Hein. Non, mais c'est souvent on critique les mangas. Non, j'avoue qu'à l'adolescence, j'ai lu, ça m'a beaucoup reboosté le manga, reprendre le dessin. Mais moi, je voulais dessiner comme Katsuhiro Otomo, donc je suis pas arrivée. Ouais. Je l'ai beaucoup recopié. Je lis encore un peu de manga, mais ça me rend toujours triste quand on dit que c'est pas bien le manga. C'est parce qu'il y a encore l'idée que c'est violent, parce qu'il y a eu un peu n'importe quoi dans le Club Dorothée. Ouais. Mais en fait, il y a de tout. Si vous êtes fan de cuisine, ou si vous êtes, quartier lointain de Taniguchi, c'est de la poésie. Il y a vraiment pour tous les goûts.
Mais il y a un public énorme pour le manga. Ceux qui disent que le manga c'est pas terrible.
Ils ont en face d'eux
quand même des fans dans le monde entier. Hein.
Ah oui, mais c'est génial. C'est un autre rythme aussi. C'est un peu comme Netflix. C'est que vous pouvez faire sur des longues périodes, des grandes sagas. Et puis surtout, il y a de tout. C'est comme dire que le cinéma est violent. C'est faux. J'ai chialé en lisant des mangas. Et il y en a certains qui sont en effet d'une violence. En plus, j'en ai vendu. J'ai travaillé un peu dans une librairie. Donc j'ai dû en lire pas mal. Et il y en avait pour toutes les tranches d'âge, pour tous les genres, c'est très très varié.
Marion Montaigne, comment arrive le professeur Moustache dans votre parcours, dans votre vie,
plume ? Elle arrive en 2008, un été où j'ai décidé de créer un blog. Et quand je lisais des articles scientifiques, etc., je les expliquais un peu en petite BD. C'est un peu comme ça que je me mets en scène, mais comme j'avais tellement peur de me raconter, je me suis mis une moustache, même carrément. Donc c'est un être ambigu entre les deux, qui se planque un peu, qui prétend être chercheur, mais en fait qu'il l'est pas, qui explique. En fait, c'est moi qui explique à mes copains et mes potes ce que le lecteur est mon pote, et je lui explique ce que j'ai compris dans un labo, etc.
On va y revenir à cette histoire de moustache. Tu mourras moins bête. C'est un blog au départ dans lequel on retrouve donc le professeur Moustache, 2008, et c'est adapté en dessin animé pour Arte en 2016.
Les prix Nobel et les savants qui feraient très bien voyager dans le temps qui arbore sa pilosité suppucale et pense en dehors du bocal qui sait expliquer ce qu'est la radiation qui contacte-t-on pour poser une question.
Le professeur Moustache.
Avec ça, c'est sûr, vous mourrez moins bête. Mais bon, vous mourrez quand même.
Voilà, avec la voix de François Morel, votre alter ego avec des moustaches. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas imaginé une professeure, en fait, dès le départ?
Eh ben, on me l'a souvent demandé et je me suis psychanalysée en long, en large et en travers.
Allongez-vous, Marion Montaigne, sur notre divan, s'il vous plaît.
On m'a demandé. Alors, il y a même des étudiants qui m'ont dit, est-ce que c'est parce qu'une femme drôle est forcément moche? Et je fais, le professeur Moustache n'est absolument pas moche.
Ouais.
Ou est-ce que c'est, elle se déguise en homme pour être prise au sérieux en tant que... Et en fait, je sais pas trop. Moi, c'est un peu comme si je lui avais mis des attributs, des lunettes, etc. En plus, elle est un peu impostrice parce que elle a pas vraiment de diplôme. Des fois, elle comprend rien. Enfin, c'est moi qui comprends rien quand elle est face à un chercheur. Elle fait oui, tout à fait. Donc, c'est un mix de, c'est un drôle de mélange de moi, pas moi, qui se prend pour une chercheuse qui l'est pas et qui l'assume pas et qui n'assume pas être à la
d'où
première personne.
D'où le déguisement, d'où
donc, rien ne va.
Donc,
oui,
la moustache.
Il me faut un bon psychanalyste pour 15 ans.
Pour ce... Non, il n'y a pas besoin. Vous venez très bien l'expliquer en deux minutes.
Pourquoi
c'est pas la peine de dépenser autant d'argent. Ce professeur Moustache, vous en avez croisé beaucoup dans les labos ou pas, dans les vrais labos de sciences?
Moi, j'ai surtout rencontré des chercheurs qui lisaient le professeur Moustache, donc ils connaissaient. Et ça, c'est bien parce que c'est des gens qui ont compris. Alors souvent, c'était des jeunes, à peu près mon âge, qui avaient compris que vulgariser n'était pas mentir, c'était juste s'adresser à d'autres gens que leur père, et donc c'est prendre un autre langage. Mais c'est pas évident pour tout le monde. Donc je rencontre surtout des gens sympas, en fait, vraiment cool. À ceux qui ne sont pas, peut-être qu'ils ne m'appellent pas.
Non, ouais. C'est pas ce que mais entre 2008, où démarre justement Tu mourras moins bête, et aujourd'hui, est-ce que vous avez observé un changement dans la façon dont les scientifiques communiquent, justement?
Ah bah oui, parce qu'en fait, déjà, ils se sont rendus compte, il y a les BD de vulgarisation qui se sont un peu plus multipliés, ils se sont rendus compte que ils avaient tout à gagner à s'adresser au grand public, que c'était pas simplifier n'est pas forcément trahir, c'est juste c'est vraiment une obsession moi quand je dis ça, parce que c'est des questions que je me suis beaucoup posées avec des chercheurs, et ils se sont rendus compte aussi avec les réseaux sociaux qu'il y avait de plus en plus de vulgarisation, de gens qui en parlaient, donc il y a peut-être aussi une il y a eu ma thèse en 180 secondes, donc il y a aussi une volonté de d'ouvrir un peu les labos, être moins fermé pour parce que déjà c'est leur mission, c'est un bien public, c'est un bien commun, c'est l'argent public, donc ils doivent aussi expliquer ce qu'ils font. Mais c'est vrai que c'est pas facile quand vous êtes un expert qui d'un domaine et vous devez prendre les bons termes, être très très pointu, et c'est pas toujours évident pour eux de se mettre au niveau de quelqu'un qui sort du lycée, du collège.
Et en sachant que vous avez vos pères qui vous écoutent, hein.
Et ça, donc, c'est difficile.
Il y a toujours la petite pression, hein. Ouais. Marion Montaigne, aujourd'hui, vendredi 7 mars 2025, j'ai entre les mains la une de Libération.
Oh là là.
Est-ce que vous voulez nous décrire la une, justement, la photo? C'est un montage.
Ouais, on reconnaît bien le bas du visage d'Einstein qui tire la langue, mais dessus, ils ont collé les yeux de Trump avec des flammes aussi, comme un masque qui brûle.
C'est ça, c'est la photo d'Einstein, en fait, qui est en train de brûler. Et derrière,
en dessous, et c'est en dessous qu'apparaît le visage de Trump, pardon.
Je Donald Trump.
Oh là là.
Sous-titré, Trump, l'Amérique en science inverse. Au moment où on se parle, Marion Montaigne, les chercheurs américains se mobilisent face à l'offensive obscurantiste menée par Donald Trump. Une mobilisation d'ailleurs du mouvement Stand Up for Science a lieu dans plein de pays, en France aussi, dans chaque ville universitaire. Est-ce que vous irez marcher tout à l'heure ou pas en sortant de ce studio
On ira ensemble.
Ah bah, volontiers.
C'est dans le cinquième. Enfin, ça doit être dans plusieurs endroits. Bah oui, c'est en plus, on sort un peu d'une sidération. On est complètement comme décapité quoi, par toutes ces nouvelles. Et donc, c'est un peu l'envie de faire corps là-dessus, parce que c'est hyper grave. C'est pour ça que je parlais de bien commun, là. C'est vraiment du fascisme en route. On retire des mots clés, les mots réchauffement climatique, pour plus qu'il y ait de débat, pour plus que ça existe. Et surtout, ils essayent, là, c'est clairement, on va privatiser la recherche, comme si la recherche devait être... Enfin, c'est horrible, je sais pas par quel bout le prendre, mais c'est super grave. C'est vraiment un bien commun qu'on a qui nous permet d'avancer, de comprendre le monde, de vivre ensemble, qui sont en train de détruire, et c'est pour ça que c'est gravissime.
Est-ce que l'opinion, selon vous, mesure la gravité du problème, justement, en s'attaquant à la science comme ça? Est-ce que le citoyen lambda que nous sommes toutes et tous réalisent à quel point justement c'est grave?
J'espère. Enfin, c'est un peu pour ça qu'on fait aussi de la vulgarisation, et que moi, c'est un peu un cheval de bataille aussi de montrer quel est la méthode scientifique, pour montrer que la science, c'est pas une opinion, c'est ça se fabrique, c'est long, mais ça a des résultats, et c'est pour c'est un bien commun, c'est-à-dire qu'on paye des impôts pour, et pour en profiter, tout le monde a le droit de jouir des bienfaits de la science. Et je sais pas si le lien est fait entre... Je trouve que des fois, on dit que la science est ennuyeux dans certains grands médias, la manière dont c'est présenté, on va s'ennuyer, oh, c'est des têtes d'ampoule, alors qu'en fait... La science est partout, elle nous aide à voyager, à vivre, à rire. Non, c'est... On est lié à la vie, on est lié au cycle des vies, donc au biologique, et donc à la science, je ne sais pas comment dire. On n'est pas... Ouais, ça me fait un peu peur, les gens qui pensent que quand les requins meurent, c'est pas grave, c'est un requin, c'est loin, mais on est dans des cycles très complexes et on est tous liés, donc non, c'est très grave.
En 2017, vous avez publié dans la combi de Thomas Pesquet, énorme succès. La NASA elle-même est déjà touchée d'ailleurs par les décisions de Donald Trump, puisqu'il a commencé à appliquer son décret qui exige la suppression de tout programme ou service lié à la diversité, l'équité, l'inclusion et l'accessibilité. C'est le cas à la NASA.
Oui, et puis Elon Musk, on ne sait pas dans quel délire il est, donc je pense qu'ils sont tous en PLS à se demander quelle va être la suite. Non, c'est...
Ça C'est quoi votre position par rapport justement à la politique spatiale? Parce que Trump a dit qu'il voulait renvoyer des Américains dans l'espace, dans la Lune, d'accord, mais sur Mars surtout. C'est aussi le souhait d'Elon Musk. Vous qui aviez quand même cette admiration du monde des astronautes, qu'est-ce que vous en pensez?
Moi, je pense qu'il y en a certains dans le spatial qui disent que c'est criminel de faire croire à un plan B sur Mars. Enfin, il y a toute une idée comme ça qu'on va coloniser Mars, etc. Mais moi, rien qu'en faisant une BD sur la station spatiale, juste en sachant qu'il faut au moins plusieurs vols pour la ravitailler en oxygène, etc., c'est impossible. On ne sait pas aller sur Mars, on ne sait pas le faire. Donc, est-ce qu'on ne doit pas mettre l'énergie dans autre chose? C'est impossible. Il faudrait partir au moins 3 ans et on ne peut même pas ravitailler une fusée sur 6 mois, enfin. Et c'est très très technique d'atterrir là-bas. Et en plus, pour avoir vu aussi des astronautes atterrir au bout de 6 mois, c'est un peu dur. Enfin, physiquement, on les fait passer pour des héros et ils se plaignent pas. Mais 2 semaines après, ils sont encore très pâles, ils n'ont pas le droit de conduire parce que c'est physiquement, c'est pas anodin d'aller dans l'espace. Et 3 ans, ils savent même pas dans quel s'ils seront en forme pour marcher. Donc la Lune encore, je veux bien, enfin c'est pas moi qui fais les lois, mais Mars, c'est absurde. Enfin, je pense que c'est du gâchis. Mais c'est mon opinion, je suis pas une spécialiste.
Est-ce que vous en parlez avec Thomas Pesquet ou pas? Vous êtes encore en contact avec lui ou pas?
Oh, un petit peu, oui. Bah, surtout, moi, c'est des questions. Ça varie beaucoup. C'est surtout, moi, vis-à-vis de SpaceX, je lui disais, tu crois que vous allez repartir et tout. Mais en vérité, tout le monde est tétanisé à attendre de voir ce qui va se passer parce que là, ça change tous les jours. Donc, je pense qu'ils sont tous. Enfin, je ne sais même pas si la NASA a eu des secteurs qui ont été fermés ou retirés. Donc
en tout cas, ça va bouger à la NASA. Bon, même si oui. Elon Musk, évidemment, a des intérêts directs avec cette agence spatiale.
France Inter. La Terre au carré.
La forêt tropicale humide, elle est en train de disparaître. Elle disparaît à la vitesse de 20 à 30 hectares à la minute, jour et nuit. Et au rythme où vont les choses, il n'y en aura plus à la fin du siècle.
Depuis 25 ans qu'il étudie la forêt équatoriale, Francis Hall n'en connaît que le sous-bois. Mais pour la première fois, il va pouvoir le sculpter par le haut grâce à ce radeau des cimes conçu par l'architecte Gilles Ebersol. Une fois posé sur les arbres du site de Paracou, Francis Hall va observer la flore et la faune qui peuplent la voûte forestière tropicale dont on sait peu de choses.
Si la forêt tropicale humide disparaît, c'est avec elle une des plus grandes ressources biologiques de notre planète qui disparaît. Et c'est une disparition irréversible.
La voix de Francis Allais avec France 3 Rhône-Alpes en 1986 autour du radeau des Cimes. Marion Montaigne, vous qui êtes notre invitée au carré, qu'est-ce que représente ce botaniste pour vous? Parce qu'il a un lien évidemment.
Ouais, en fait je me souviens, on l'avait étudié en CM2 et j'avais découvert le radeau des Cimes et je me disais mais j'aimerais être je voudrais faire ça. Je me dis, il y a des gens qui restent en haut, là, en haut des arbres. Donc, c'est une sorte de filet qu'on met, qu'on pose avec un dirigeable, je crois, les arbres.
Sur la canopée.
Ouais, sur la canopée. Et les scientifiques étudient les insectes et tout. Et je faisais, mais c'est génial.
C'était votre truc.
Non, mais après, j'ai découvert que j'étais casanière. Mais ouais, je me disais, alors, on peut faire ça. Il y a des métiers comme ça. Donc, j'ai découvert le travail d'aller à cette époque.
Alors, vous qui étiez féru et qui l'êtes toujours, d'ailleurs, de biologie, vous auriez pu faire un travail de bande dessinée autour de l'écologie précisément, non?
Ah oui, j'ai régulièrement des propositions. En plus, c'est cette année, ça va être l'année de l'océan, etc. Donc j'avais même discuté avec des scientifiques de l'Ifremer qui sont désespérés, etc. Ouais, c'est juste que c'est tellement énorme, ou même essayer de lire le GIEC et faire un résumé. Mais en fait, c'est tellement grand que je sais même pas par quelle boule prendre. Et parce que tout est, comme je disais, tout est lié et c'est un gros morceau. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il y a même des... Oui.
Est-ce que l'écologie n'a pas besoin finalement de gens comme vous aussi aujourd'hui? C'est-à-dire capable à la fois de faire de la synthèse, de travaux scientifiques, mais aussi d'y mettre de l'humour?
Ah, parce qu'il y en a, il y a plein d'autres BD qui vulgarisent beaucoup l'écologie. Alors de l'humour, c'est dur de faire de l'humour quand ça commence à devenir aussi grave. Parce que, j'avoue que ça commence vraiment à être tellement angoissant et que, ou alors il faut rire de ce qui est absurde et ce qu'on a tous en commun. Mais c'est vrai que, ouais, c'est pas, je choisis un peu mes sujets quand je suis à l'aise ou pas à l'aise. Mais c'est vrai que c'est pas évident de projeter des systèmes aussi complexes mais de dans la vulgarisation de phénomènes mais c'est faisable. L'humour, ouais, ben si, mais il y a plein qu'il a fait avec Jean Covici, ça ouais, marche très bien, ça a cartonné. Et,
un monde sans fin.
C'est pas toujours drôle, mais c'est le dessin sert énormément à comprendre les échelles, l'ampleur des choses, etc.
Un autre auteur de bande dessinée, on le disait tout à l'heure, auquel on vous compare souvent, c'est Reiser. Saviez-vous que Reiser était très écolo?
Vous le savez?
Moi, je ne le savais pas. Ouais. Et il a vu une fascination pour les panneaux solaires. Ouais. Je vous propose d'écouter ce reportage d'Antenne 2 en juin 1979.
Les dessinateurs du journal Charlie Hebdo ne sont pas tous les jours bêtes et méchants. Avec Jean-Marc Reiser, l'un des plus redoutables, nous avons passé notre première journée solaire dans sa toute petite maison de Collioure, équipée sur le toit de plaques, garnies de disques de silicium inusables et particulièrement efficaces.
Ça, ce sont des panneaux de photopiles qui transforment la lumière du soleil en électricité.
Il n'y a aucun fil électrique alors qui arrive de quelque part dans cette maison.
Rien, la montagne est pure, nette, pas un poteau, rien. Ce qui tombe ici suffit à alimenter la maison d'électricité, c'est tout.
Ça fait 25 ans que je m'y intéresse. J'ai vu un jour aux actualités un four solaire. L'image m'est restée dans l'œil. C'était extraordinaire, c'était fabuleux. J'ai trouvé que c'était à la fois de la science-fiction et je sentais que c'était de la science-fiction qui allait être vraie un jour.
Voilà, il est en avance sur son temps. Ouais, c'est incroyable, 1979 là.
Oui, il devait passer pour un uberlu, mais voilà, il avait raison.
Avec ses panneaux solaires, donc Reiser écolo.
Ouais, moi j'étais restée sur de l'éolienne. Oui, je savais qu'il dessinait lui-même son jardin, etc., qu'il préparait. Et c'est vrai que oui, dans les années 70, il devait un peu être seul quand même.
Oui, c'est vrai. Ouais. Est-ce qu'il y a des domaines qui vous intéressent aujourd'hui, sur lesquels vous réfléchissez, sur lesquels vous pourriez dessiner? Il paraît que vous avez plein de carnets dans lesquels vous mettez un peu comme ça les sujets qui pourraient faire l'objet d'albums.
Bah, j'aime bien en ce moment la psychologie ou la psychiatrie même. Je trouve que c'est assez important parce que j'ai la chance de connaître des psychologues ou des psychiatres et j'aime bien quand ils m'expliquent les phénomènes psychiques, est-ce que c'est quelqu'un qui décompense, la paranoïa, etc., comment ça marche. J'aime bien comprendre ces domaines-là. Mais après, c'est pas évident non plus à expliquer parce qu'il faut pas stigmatiser, c'est très complexe.
Donc vous pourriez faire un album sur la question.
Mince, je vais devoir m'engager. Non, non, c'est un sujet qui m'intéresse, mais je ne sais pas encore sous quel angle. Si une sorte de dictionnaire du psychisme humain, c'est tellement vaste. Ouais. Et même entre eux, les scientifiques sont une fois de plus pas d'accord parce que c'est de la science, c'est normal. Mais ils sont pas tous d'accord sur les traitements, sur comment l'origine de certaines choses, etc., génétique. Mais je trouve que dans le comportement, il y a des choses clairement que vous voyez dans la rue ou dans la vie de tous les jours qui seraient intéressantes à expliquer pour comprendre.
Puisqu'on parle de psychiatrie, des personnages comme Trump ou Musk, ce sont des personnages aussi au-delà du drame qu'ils représentent, mais assez inspirants aussi pour le comics.
Oui, mais encore une fois, faut pas, si on leur traite un trait psychiatrique, ça veut pas dire que vous ne pouvez pas travailler en ayant ces traits-là. Donc, il faut être très prudent. Mais clairement, il y a des psychiatres américains qui avaient essayé de faire le profil psychiatrique d'un candidat aux États-Unis. Et ça a été... alors, je pense que ça a été assez juste, l'analyse qu'ils ont fait, mais ça a été assez catastrophique pour lui. Et ensuite, dans les élections, ils ont décidé que plus jamais ça n'aurait lieu. Oui. Je ne sais plus qui c'était, j'ai oublié les noms. Mais maintenant... vous n'avez pas le droit de faire un diagnostic sur une personne que vous n'avez pas vue en entretien.
Un dessinateur peut s'emparer d'un sujet.
J'ai le droit de dire que... Oui, enfin, je ne sais pas si j'ai le droit, mais c'est vrai qu'on peut faire des hypothèses. Ils en ont, hein. Les psychiatres ont forcément des hypothèses sur ce qu'ils voient quand ils regardent la télé ou les hommes politiques, oui. Ouais.
Est-ce que vous faites beaucoup relire vos bandes dessinées par les scientifiques avant de les publier? Est-ce que vous avez cette crainte, comme on l'évoquait tout à l'heure, de la part des scientifiques eux-mêmes, d'être jugés par leur pair, vous, d'une certaine manière aussi, de commettre un faux pas, une erreur, une inexactitude?
Ah oui, mais j'ai dû en faire, j'en ai forcément, c'est pour ça que je mets les bibliographies. En plus, ça fait 15 ans que j'en fais, je pense qu'il y a des trucs de 2008, je sais qu'il faudrait les réécrire. Quand je travaille seul en documentation, ce qui m'est arrivé de faire peut-être un erratum à un moment, mais je sais que le fait de mettre des bibliographies date l'info. Après, si je fais avec un chercheur, oui, je fais tout relire jusqu'à ce qu'il valide même son directeur de thèse, si c'est un thésard, ouais, etc. Parce que je veux être sûr de ne pas dire de grosses bêtises sur, ouais, par respect aussi pour la personne qui m'a consacré du temps. Et aussi pour moi, pour ma conscience, parce que après, j'ai des fois des commentaires qui font « mais c'est pas ça du tout », et là je suis super contente, j'envoie le commentaire au spécialiste, ouais, qui s'en occupe. Donc non, je fais, quand je suis en collaboration, oui, je fais relire.
Et vous allez toujours beaucoup dans les labos ou pas?
J'essaye, faudrait que je le fasse un peu plus, parce que ça fera un peu plus de temps, le temps de que ces gens aient un peu de temps à consacrer, parce que je reste des fois une journée. Et ce qui prend du temps, c'est surtout mettre en scène, là par exemple j'ai rencontré un cardiologue et un pneumologue, et là je cherche à comment mettre en scène, est-ce que je les montre eux ou je vais directement au sujet, quand je vois les chercheurs c'est toujours un peu plus compliqué, je me prends un peu plus la tête, donc c'est un peu plus long, ouais. Donc j'en suis à ces phases-là, ouais, mais j'aime bien rencontrer les chercheurs, ouais.
Marion Montaigne, dans Nos mondes perdus, qui était sorti en 2023 chez Dargaud, vous retracez non seulement l'aventure de la paléontologie, des premiers fossiles à Jurassic Park, mais vous vous racontez aussi beaucoup dans cette bande dessinée.
Un petit peu, oui.
C'était une envie aussi de...
Ouais, mais je l'ai beaucoup fait...
D'enlever vos moustaches?
Ouais, un peu. Je trempe mon doigt de pied là dans l'autobiographie parce que ça me faisait un peu peur, mais oui, c'est parce que je voyais aussi des choses en parallèle avec en fait ça me questionnait sur comment on représente la science en tant que dessinateur, parce que finalement très vite on a cherché à dessiner les dinosaures alors qu'on avait qu'une molaire ou une vertèbre, c'est très difficile. Et donc c'est toujours le poids compliqué du dessinateur de rendre, faire des choix. Et
mais c'est vrai que vous livrez beaucoup, hein, puisque vous écrivez « Ménopausée est dans un monde détruit, ma solution c'est de me marrer, enfin de me moquer un peu de moi, pauvre humain croyant qu'il a de l'importance ».
C'est beau.
C'est votre philosophie de la vie là aujourd'hui. C'est ouais, du Montaigne, oui, du Marion Montaigne.
Un moral, vous voyez, pourquoi j'ai des amis psy. Non, mais oui, je trouve que c'est des sujets qui vous remet un peu à votre place. Et la science, c'est pour ça qu'il y en a qui l'aiment pas du tout, dont Trump, c'est que ça nous plaît pas toujours le résultat. Ça nous dit qu'on est limité, qu'on peut pas faire n'importe quoi, qu'on est vivant, qu'on respire et qu'on n'est pas... On n'est pas increvable, donc je trouve que c'est bien un peu de se le rappeler.
Merci beaucoup Marion Montaigne. On part marcher avec les scientifiques. Allez-y. Dans les rues de Paris dans un instant. Stand Up for Science. Ouais. Et on termine l'émission comme tous les jours avec le répondeur et vos messages.
Bonjour l'équipe Terre au Carré, c'est Patricia de Haute-Savoie, d'Oussard. Aujourd'hui, 7 mars, soutien des scientifiques. Enfin, ils sortent de leur bulle. Malheureusement, ils sont obligés suite aux licenciements et ruptures de subventions. Quand j'entends un professeur se plaindre pour le manque de subventions pour l'animalerie, par exemple, je me demande s'ils n'en profiteraient pas pour faire un peu de ménage dans leur fonctionnement. Il s'agit là d'expériences sur animaux. Eh bien, fermer les animaleries et travailler sur les alternatives. Pour ça, je vous soutiens. À bientôt dans la rue.
Bonjour, Robert de Pau. Je voudrais revenir sur l'abandon de la 69 après avoir réécouté le répondeur de votre émission et autres commentaires. Je peux comprendre que beaucoup se soient réjouis d'avoir annulé la poursuite du chantier de la 69 puisque c'était leur légitime combat. Cependant, pourquoi pas un mot sur les conséquences sociales que cet arrêt va engendrer pour de nombreux travailleurs réduits au chômage? Probablement cet aspect-là, qui peut provoquer des drames familiaux, n'intéresse semble-t-il personne. En tout cas, pas la magistrate qui a pris la décision d'arrêt, pas les 400 personnes présentes au Capitole pour fêter et se réjouir de l'événement, ni certains commentateurs du répondeur qui, j'espère, pour elles et pour eux, ont un travail, ni même les animateurs de cette émission qui ne craignent rien, qui viendraient contrarier le confort d'avoir un travail et des revenus. Dimanche dernier, un ami qui travaille justement sur ce chantier, craignant le chômage, m'a dit des sanglots dans la voix, L'angoisse et la honte de devoir annoncer à sa fille le possible arrêt de ses études après sa deuxième année de droit, ne pouvant plus assumer cette charge. Oui, il se peut que des drames familiaux surviennent, pouvant aller jusqu'au drame ultime. Qui se préoccupe de cette détresse? Reste-t-il encore un peu de cœur et de compassion dans ce désastre humain qui se profile? Qui va payer les lourdes conséquences financières de cet arrêt, quand bien même ce chantier serait prétendument considéré illégal?
Oui, bonjour, c'est Jérôme de Gruissan. J'adore votre émission et je suis un fan de l'écologie. Mais par contre, je suis assez estomaqué par les messages que j'entends sur le répondeur et qui sont toujours, toujours dans le même sens. J'entends ce charmant auditeur du Nord qui critique la 69 alors qu'il habite le Nord et qui nous fait un catalogue des allers-retours entre Castres et Toulouse. Et j'avoue que je suis assez dubitatif. Je trouve que l'écologie doit partir dans tous les sens et pas toujours être orientée dans le même sens politique. Et c'est bien triste. À bientôt, la tête au carré.
Bonjour, la Terre au carré. Je m'appelle Georges et j'habite à Ardennais. Jeudi 6 mars, un auditeur a laissé un message mettant en cause un parc éolien voisin en raison des nuisances occasionnées par celui-ci. Il évoquait le processus de transformation de nos zones rurales en zones industrielles à vocation énergétique. J'habite dans le sud du Cher, un magnifique paysage de bocage hérité des pratiques d'élevage et de polyculture appelé le bois chaud. En quelques mois, des dizaines de projets agri-énergétiques ont été déposés en préfecture. À titre d'exemple, un gros méthaniseur nécessitant 90 tonnes par jour de végétaux, générant 80 tonnes de déchets nauséabonds et toxiques, à répondre sur le territoire de 15 communes. Des champs photovoltaïques de 67 à 103 hectares, au moins deux parcs éoliens, et pour couronner le tout, la destruction en cours de kilomètres de haies avec leurs arbres séculaires pour nourrir le juté marché des granulés de chauffage. Voilà comment le capitalisme envisage la production d'énergie dite renouvelable en saccageant la nature et la qualité de vie des gens de nos campagnes. Merci.
Et merci pour vos messages sur ce répondeur. Notez bien le numéro pour nous appeler pendant le week-end, si vous le souhaitez, 01 56 40 45 45. Merci à Valérie Ayestaraï qui réalisait cette émission. Le dossier a été préparé par Anna Massardier. Stéphane Beaufis était à la technique, Vincent Samuel pour les archives de l'INA.